100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et toutes. En Méditerranée, les sauvetages de migrants qui fuient la misère et la guerre se poursuivent malgré les conditions météo plus difficiles à l'approche de l'hiver. Et désormais, chaque arrivée de bateau en Sicile voit débarquer des femmes enceintes par dizaines. Alors, que deviennent ces mamans et comment les aide-t-on à prendre en charge leur enfant? Cécile Debarge s'est rendue au CARA de Mineo, dans la province de Catane. Ce centre d'accueil est le plus grand d'Europe et c'est aussi le seul où une unité spéciale prend en charge les femmes enceintes et les jeunes mamans.
C'est prêt. Oui, tout de suite. Oh, mais ce sont des larmes, des petites larmes.
Le biberon, à peine réchauffé, le voilà aussitôt englouti par miracle. Une petite fille d'un mois à peine, dont la maman a confié la garde pour la journée aux femmes du Punto Mama, le point maman, littéralement, du CARA de Mineo. Ce service, unique en Italie, aide les nombreux parents hébergés dans le centre d'accueil à s'occuper de leur enfant dans ce pays qu'ils ne connaissent pas.
Alors, ça c'est notre petite remise. On a des petits pots, du lait en poudre, des jus de fruits, des couches, ici du lait pour les plus grands, et puis des produits d'hygiène. Le placard est un peu vide, on a fait le tri ces jours-ci et on attend le nouveau stock.
À la tête du Punto Mama, Katiushka Valentino. Elle travaille au CARA de Mineo depuis son ouverture en 2011.
Vous comprenez bien que si c'était moi qui devais aller au Sénégal, par exemple, je n'aurais aucune idée de ce que je devrais faire, par où commencer. Donc on s'est dit que toutes ces notions étaient importantes et qu'il fallait les rendre simples et accessibles pour qu'elles soient comprises par tous. Pour les préparer aussi à la vie qui les attend à l'extérieur, on organise des rencontres où l'on convoque les parents par petits groupes selon les langues qu'ils parlent pour leur présenter tous les services proposés aux parents, aux enfants et aux familles à l'intérieur du centre.
Avant chaque accouchement, les parents sont invités à 4 cours de pédiatrie au programme Conseil pratique sur l'organisation du système de santé italien, sur l'hygiène des bébés, l'allaitement ou encore les droits et devoirs des parents et enfants. Tous les jours, et d'après un menu concocté par le pédiatre, le Punto Mama propose aussi petit déjeuner, déjeuner et dîner pour les enfants de 0 à 5 ans. À l'heure de la distribution, Tella attend avec sa poussette. Elle est arrivée en Italie enceinte de 3 mois et a accouché 5 semaines plus tôt de la petite Aïssoussa. Toute sa grossesse a été suivie de près par les équipes du centre d'accueil.
Ils m'ont régulièrement amenée à l'hôpital pour y être soignée, tous les mercredis.
Félix Enger, nigériane, elle aussi est tombée enceinte au centre d'accueil et a bénéficié des mêmes services que Tella à la naissance de son fils, Michael.
Ils nous donnent tout ce dont on a besoin, des vêtements de bébé, de la nourriture pour bébé. Jusqu'à présent, ils ont pris bien soin de mon bébé.
Au total, le centre d'accueil compte près de 90 enfants entre 0 et 2 ans et le Punto Mama est le point de référence des jeunes parents parmi lesquels de nombreuses mères célibataires. La spécificité du centre est aussi de proposer un accompagnement psychosocial au cours de la grossesse. Avec 350 femmes majeures, dont 150 arrivées seules en Italie, un espace est réservé aux femmes pour y parler notamment de contraception et de gynécologie. Massimiliano Terassi y travaille comme psychologue.
L'arrivée au centre représente un choc pour la femme. Tout le monde parle une autre langue, tout le monde est blanc. Il y a tout un tas de règles, on organise les repas 2 à 3 fois par jour. Elles ne savent pas quoi faire de leur futur. Beaucoup d'entre elles sont complètement perdues. Du coup, ce premier moment est un moment très difficile pour la femme, encore plus si elle est enceinte.
Un déracinement auquel s'ajoute une réalité glaçante. De très nombreuses grossesses sont le fruit de viols. Au moins 80% des femmes passées par la Libye et reçues par les équipes du centre d'accueil ont été victimes de violences sexuelles. La prise en charge de ces femmes est un véritable défi pour le psychologue qui constate de nombreux syndromes de stress post-traumatique.
Les symptômes, ce sont des insomnies, des flashbacks, des cauchemars, des moments de terreur. En ce qui concerne les flashbacks, alors que tout semble normal, d'un coup, la femme revit des moments du passé. Il peut y avoir aussi des dépressions profondes, l'envie de ne rien faire, un sentiment d'impuissance, etc.
Dans ces cas, la prise en charge est particulièrement intense, comme l'explique Giovanna Marletta, assistante sociale qui s'occupe tout particulièrement des femmes enceintes.
En général, nous, assistants sociaux, organisons des entretiens réguliers en compagnie de la psychologue et on essaie vraiment de les soutenir jusqu'au 9e mois, de ne surtout jamais les laisser seules. Et on a eu plutôt de bons résultats. Beaucoup de femmes ont même fini par accepter leur grossesse.
Les lèvres pincées, Giovanna Marletta raconte que d'autres, trop enceintes pour interrompre la grossesse, préfèrent abandonner leur enfant à l'hôpital. Une décision douloureuse et traumatisante à laquelle elle a déjà assisté plusieurs fois, consciente que ce ne serait pas la dernière. Car au cours des dernières arrivées de bateaux sur les côtes siciliennes, les équipes ont noté une augmentation du nombre de femmes enceintes, un stade toujours plus avancé de leur grossesse.
En Hongrie, c'est une campagne littéralement de haine qui a été lancée par le Premier ministre contre George Soros. Par le biais d'affiches, d'encarts publicitaires dans les journaux, de formulaires envoyés à la population, Viktor Orban accuse le milliardaire et philanthrope américain de vouloir une Europe islamisée et de fomenter un plan pour y faire venir des millions de migrants. Mais cette campagne, qui sert en réalité à mobiliser les électeurs d'Orban contre un bouc émissaire, vient de prendre un tour ubuesque, explication de Florence.
Dans sa guerre contre George Soros, le gouvernement de Viktor Orban utilise toutes les armes possibles. Tout est bon pour salir le nom du philanthrope américain. Les membres de la majorité au pouvoir le calomnient sans cesse. Ils ont notamment déclaré « George Soros conspire contre l'ordre constitutionnel. Il veut utiliser la violence pour renverser la République. Il est coupable de haute trahison. » Un élu est même allé jusqu'à dire « le plan de Soros est inspiré par Satan ». Une propagande tellement excessive que le parti d'extrême droite Jobbik a décidé de ridiculiser le gouvernement de Viktor Orban. Un élu du Jobbik a porté plainte à la police, non pas contre le gouvernement, mais contre Soros lui-même. « Je porte plainte contre M. Soros pour conspiration, tentative de renversement de la République et haute trahison », indique le député en citant à l'appui les déclarations des membres de la majorité. Si, comme le prétend le parti au pouvoir, Soros représente une telle menace, eh bien il faut ouvrir une enquête, conclut cet élu d'extrême droite. La police est bien embarrassée. Le Bureau national d'investigation, l'équivalent hongrois du FBI, a convoqué le député d'extrême droite pour lui demander « Avez-vous des indices, des preuves d'une conspiration dans laquelle tremperait George Soros ? Moi, je n'en ai pas, mais les membres du gouvernement en ont sûrement, a répondu le politicien, pince sans rire. Perplexe, la police n'a pas encore réagi. Si elle n'ouvre pas d'enquête, dit cet élu d'extrême droite, cela prouvera que la propagande gouvernementale contre le milliardaire américain n'est qu'un gigantesque bluff.
Les inégalités hommes-femmes se réduisent peu à peu. C'est le principal enseignement du 12e et dernier rapport annuel sur les inégalités de genre du Forum économique mondial. Et cette tendance est une première depuis 2006. C'est particulièrement vrai au Moyen-Orient et en Asie du Sud, tandis que l'égalité continue de progresser dans son ensemble dans l'Union européenne, mais avec de fortes disparités. L'occasion de faire le point avec Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors tout d'abord, expliquez-nous comment on mesure les inégalités hommes-femmes.
La tâche est en effet complexe et la mesure des inégalités touche une infinité de secteurs ou de sphères d'activité. Le Forum économique mondial, ou en anglais WEF pour World Economic Forum, se préoccupe essentiellement des domaines économiques, politiques et sociaux et tend à délaisser ce qui relève exclusivement de la vie privée, comme par exemple l'exécution des tâches ménagères. Un domaine très difficile à analyser pour les 144 pays du monde examinés par le rapport. Ce rapport se focalise donc essentiellement sur quatre grands domaines, la participation économique, l'éducation, la santé et l'implication dans la vie politique. Autant de sous-indices qui constituent l'indice global, mesuré de 0, l'inégalité absolue à 1, l'égalité parfaite. Toutefois, pour faciliter l'écoute de nos auditeurs, nous n'allons pas faire état des indices, mais de la différence entre ce qu'atteignent les femmes par rapport aux hommes dans un pays donné en matière de rémunération, de postes de direction dans les entreprises ou de nombre de députés. En clair, un indice de 0,78 signifie que les femmes accusent un retard de 22% par rapport aux hommes.
Alors sur le plan de l'indice global, comment se positionne l'Europe ?
Le rapport du WEF ne considère pas l'Union européenne en tant que telle, car il distingue d'une part l'Europe de l'Ouest et d'autre part l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. L'Europe de l'Ouest est la zone la plus égalitaire du monde, avec un retard global de 25% des femmes sur les hommes, contre 28% pour l'Amérique du Nord et 29% pour l'Europe de l'Est. Mais en reconstituant les performances de l'Union européenne, celle-ci reste, avec un retard de 26%, la zone politique la plus égalitaire.
Et voyons voir maintenant comment se classent les nations européennes.
En 2017, comme grosso modo en 2016, les quatre pays les plus égalitaires sont dans l'ordre la Finlande, la Suède, la Slovénie et l'Irlande, qui affichent un retard des femmes de 20% ou moins. La bonne surprise pour les Français est que leur pays se classe désormais à la 5e place européenne et à la 11e mondiale sur 144, alors qu'il n'était que 7e européen et 17e mondial l'an dernier. Et en 2006, sur 115 pays, la France n'émergeait qu'à la 70e place et accusait un retard féminin de 35% sur les hommes. Elle a donc depuis progressé de 13 points, puisque le retard n'est plus que de 22%, ce qui constitue une des plus fortes réductions des inégalités au monde.
Comment s'explique cette rapide progression ?
Elle tient essentiellement à trois facteurs. La loi de 2011 concernant le progrès dans la parité au sein des conseils d'administration, l'instauration de la parité au gouvernement en 2012 et enfin, cette année, la forte augmentation du nombre d'élus féminines au Parlement. C'est ainsi que la France est, hormis la Bulgarie, le pays de l'Union dont l'indice global a le plus progressé en 2017. L'Hexagone fait désormais légèrement mieux que l'Allemagne qui, jusque-là, était toujours devant.
Alors maintenant, Daniel, quels sont les mauvais élèves de la classe européenne ?
À n'en pas douter, l'Italie, dont l'indice de parité régresse cette année et qui n'occupe que le 24e rang européen et le 82e rang mondial. Mais la lanterne rouge est occupée par la Hongrie et des pays comme la République tchèque, la Roumanie et même l'Autriche sont encore bien loin en termes d'égalité.
Et qu'en est-il en termes d'inégalité salariale ?
Si l'on accepte la participation politique, où les femmes accusent un retard d'au moins 50% par rapport à leurs homologues masculins, la sphère économique reste un lieu de fortes inégalités. Pour l'Union européenne, la différence de revenus entre hommes et femmes est globalement de 35%, au détriment bien sûr de ces dernières. Un seul pays de l'Union, la Slovénie, est parvenu à réduire ce gap à moins de 20%. La Suède est à 22% et, bonne surprise encore, la France arrive à la troisième position européenne avec un retard de revenus de 26% pour les femmes. Notons que l'Allemagne ne se situe qu'à la 10e place européenne, que le Royaume-Uni est dans les 8 derniers et que les Pays-Bas font figure de lanterne rouge, même si dans ce cas, le retard des femmes s'explique surtout par le fait qu'elles occupent la majorité des très nombreux emplois à temps partiel. Il faut toutefois signaler que si l'on compare les écarts de rémunération hommes-femmes à travail, temps de travail et niveau de qualification égaux, ce que ne mesure pas le rapport du WEF, les écarts salariaux sont moindres.
Et pour finir, dans quel domaine les inégalités sont-elles les plus réduites ?
Incontestablement, dans le domaine de l'éducation où pratiquement tous les pays de l'Union ont atteint l'égalité.
Merci Daniel Vigneron. Toutes ces informations à retrouver sur votre site myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Allô ?
Le théâtre explore de nouvelles scènes, y compris virtuelles. En Autriche, une compagnie a conçu une pièce qui se déroule pendant un mois. Elle est jouée en temps réel, alternativement sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et dans des lieux bien réels. Les internautes sont invités à participer et à interagir avec les acteurs et le scénario. Céline Béal a participé à cette expérience à Vienne.
Je n'ai pas bien fait attention, je n'avais pas vu qu'il y avait du sang sur sa veste et ensuite, je ne sais pas ce qui lui a pris de s'enfuir comme ça. Je suis aussi surpris que tout le monde.
Philippe est sous le choc. Marco Hertz, jeune star montante de la politique locale qu'il croyait bien connaître,
vient de prendre la fuite sous ses yeux, alors qu'une de ses vestes vient d'être retrouvée, maculée de sang, sur les lieux d'un mystère qui préoccupe tout le quartier de la Seestadt depuis 3 semaines. Cette veste, Philippe l'a trouvée au cours d'une battue à laquelle viennent de participer une trentaine de personnes afin de chercher une jeune femme disparue. Parmi ces personnes, Cathy. Cette adolescente suit l'affaire de très près. D'abord, il y a eu des avis de recherche dans les rues, ensuite des apparitions étranges et enfin une rencontre la nuit d'Halloween.
Il y a un homme super bizarre ou une femme, on n'a pas trop vu, qui est passé à côté de nous en faisant des bruits comme quelque chose qu'on tape. Je sais pas, c'est super bizarre. On s'est juste caché, on l'a pas cherché parce que qui sait ce qui serait arrivé.
Mais que se passe-t-il donc dans la Seestadt ? Ce nouveau quartier satellite de la capitale, à la pointe de la modernité, ses habitants le croyaient pourtant tout à fait paisible. Qu'ils se rassurent, en réalité ce mystère est orchestré non pas par un esprit criminel, mais par le Schauspielhaus. Ce petit théâtre viennois a inventé une série appelée Seestadt Saga, où les acteurs comme Cathy et Philippe incarnent leurs personnages au quotidien depuis un mois, postant leurs actions tout au long de la journée sur les réseaux sociaux, comme le font beaucoup de jeunes gens dans la vraie vie. Les spectateurs peuvent suivre leurs aventures sur Internet et leur smartphone, et parfois les croiser lors d'événements incorporés à la dramaturgie. Ainsi, ce sont les fans de la série eux-mêmes qui ont participé à la fameuse battue. Sylvia, par exemple, a trouvé un bouton de nacre brisé qui pourrait bien appartenir à la femme disparue. C'est la curiosité qui l'a poussée à venir ici.
Je trouve très intéressant comment elle est faite avec tous les réseaux sociaux. Et puis faire partie de la recherche, c'est aussi intéressant. C'est un nouvel format de série. Mais c'est intéressant.
Pour ceux qui ne viennent pas à ces événements ou les simples curieux, des vidéos récapitulatives sont publiées régulièrement sur Facebook. Un homme présent ce soir-là n'a en tout cas manifesté aucune surprise lorsque Marco Hertz s'est enfui. Marc Carnal est en effet l'un des auteurs de la série. Incognito, il accepte de parler de sa création à la différence des acteurs qui, eux, restent coûte que coûte dans leur rôle. Il explique que le format novateur sur les réseaux sociaux procure de grandes possibilités dramaturgiques.
L'intérêt principal est qu'on peut suivre en temps réel ce qui se passe. Si je m'implique et que je suis les différents personnages sur les réseaux sociaux, alors, au moment exact où l'un d'entre eux publie quelque chose, voire au moment exact où quelque chose se passe, si je regarde une vidéo en direct ou si je me rends à l'un des événements, à ce moment-là, je peux vivre la série au plus près.
La saga est aussi interactive. Non seulement on peut parler aux personnages sur Facebook, Twitter et Instagram, ou éventuellement leur téléphoner, mais on peut aussi les rencontrer.
Je pense que si l'histoire n'était racontée que par les posts sur Internet, le tout serait bien plus stérile, moins palpable. Alors que si je sais que j'ai la possibilité de me rendre à la réunion de formation d'un nouveau parti ou à une battue dans un champ pendant laquelle je peux activement aider à trouver des indices afin de trouver une femme disparue, cela me donne, en tant que spectateur, l'impression que je peux influencer le développement de la série.
Mais la série ne prend-elle pas des risques trop grands en simulant à ce point la réalité ? Des Viennois se retrouvent parfois à ces événements par hasard, sans savoir qu'ils sont dans une fiction. Mais généralement, ils comprennent assez vite, comme Georg, retraité.
Là, on cherche des indices. Le monsieur a dit qu'un crime avait soi-disant eu lieu. Moi, je crois que c'est un gag. Je ne le crois pas sérieusement.
Gag ou pas gag, et malgré le soir qui tombe et la fraîcheur d'un novembre autrichien, Georg se prend en jeu et cherche des indices dans ce champ de la Seestadt avec le même enthousiasme que les adeptes les plus accros de la saga.
Françoise Relot assurait la mise en scène d'Accent d'Europe aujourd'hui. Prochain lever de rideau demain dès 12h40, temps universel.